Le lieu où ça se passe, c'est Césarée de Philippe. C'est une ville qui est tout au nord, le plus au nord possible que vous pouvez imaginer, au pied du mont Hermon, que se trouve cette ville qui est un petit peu élevée en altitude. Et c'est là que Jésus a réuni ses disciples avant d'aller à la croix, avant de descendre sur Jérusalem pour donner sa vie. Et vous voyez, très souvent, c'est une sorte de testament. À un moment donné, dans la vie de quelqu'un, il y a voilà, un point d'orgue, un point important. Là, c'est un point important parce que Jésus va les quitter ses disciples, et il veut faire un peu le point. Vous voyez, au bout de ces 3 ans, il va un peu faire le point avec eux. Et en fait, il va à un endroit qui, spirituellement, est très, très chargé. Hein, Césarée de Philippe est très chargé, parce que c'est là qu'il y a, enfin, ceux qui sont allés en Israël, moi j'y étais pas, voilà, Posson en particulier, qui parle de cet endroit où il y a un gros trou, enfin, il y a la source du Jourdain déjà, et puis il y a un gros trou, ça s'appelle le puits de l'Hadès, le puits de l'enfer, voilà, parce qu'il y a des démons qui sortent, enfin voilà, il y a tout un tas de spiritualité particulière, hein, d'ailleurs dans toutes les sources, hein, Mitterrand est allé à la source de la Seine aussi pour faire des choses, voilà. Tous les puissants savent que là où il y a des sources dans un pays, et particulièrement certaines sources, en particulier la Seine, qui est chargée spirituellement par le pouvoir, eh bien, il y a des puissances occultes. Et là, Jésus va de cet endroit, parce que Jésus connaît tout le monde spirituel, et il le défie. Puisque Satan a voulu défier Jésus au moment de la tentation. Et Jésus, le deuxième Adam, n'a pas succombé à la tentation. Il a résisté et il était vainqueur. C'est pourquoi, en acceptant Jésus, nous acceptons une autre nature, la nature du deuxième Adam, le premier étant toujours présent, mais qui doit mourir. Hein, et c'est ça que notre défi est très difficile de le faire mourir, parce qu'à chaque fois il ressuscite, hein, chaque fois il renaît, quoi, hein. On prend le baptême, hop, le deuxième jour du baptême, hop, il est là. Hop, il faut de nouveau. Vous voyez, le baptême, c'est pas juste une fois qu'il faut baptiser, il faut être baptisé tous les jours. Hein, Philippe, c'est vrai. Hein. C'est pas parce qu'on a passé une fois dans les eaux du baptême que notre nature est morte. C'est le symbole. Mais le symbole doit renaître, doit se revivre chaque jour. Et donc, ce deuxième Adam, c'est Jésus qui, en nous, quand on l'a accepté dans notre cœur, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du cœur que nous avons, qui est cette nature de Jésus en nous. Eh bien, voilà que Jésus veut poser une pierre de fondation avant de partir. Et donc, il est réuni à Césarée de Philippe et il leur pose la question. Il posa la question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Qui suis-je? Ça s'appelle, en jargon philosophique, une existentielle, une pensée existentielle, une question existentielle. L'existence. Qui suis-je? Ça rappelle Moïse, hein, qui était élevé dans la culture de Pharaon, qui connaissait toute la culture égyptienne et qui pourtant était d'origine juive, puisque c'était il est né comme juif, mais celle qui l'a retenu, donc la reine égyptienne, elle ne savait pas qu'il était juif. Mais lui, il avait cette double nature. Et quand il est arrivé à l'âge mûr, eh bien, il a décidé de changer de camp et de sauver son peuple. Et il a essayé de le faire avec ses propres forces. Et vous avez vu ce que ça donnait. Hein. Sa colère est montée quand il a vu un Égyptien frapper un des siens et il l'a tué. Voilà. Vous voyez, quand on essaie de faire des choses par notre force, même si c'est bien, hein, c'était bien, son idée de se mettre du côté de son peuple, de sa race, de son origine, voilà. Mais les moyens qu'il a utilisés n'étaient pas les bons. Et à cause de cela, même son propre peuple n'a pas accepté. Il a dit, mais qui es-tu? Qui veut régner sur nous? Hein? Vous voyez, il a appris quelque chose, c'est que par ses propres moyens, on ne peut pas arriver à glorifier Dieu. On ne peut pas arriver à faire la volonté de Dieu. Et très souvent, chacun d'entre nous, nous sommes dans cette situation où nous voulons servir le Seigneur parce qu'on a un enthousiasme. Alors, enthousiasme, c'est parce que dans le mot enthousiasme, il y a le mot théo. Et théo, ça veut dire quoi? Dieu. Comme toute notre langue vient ou du latin ou du grec, hein, c'est comme ça qu'on compose la langue française, vous pouvez retrouver en essayant de décortiquer le mot. Et dans le mot enthousiasme, c'est être poussé par quelque chose à l'intérieur de vous pour glorifier Dieu. Vous voyez, donc l'enthousiasme est utilisé un mot spirituel qui est là pour vraiment manifester quelque chose. Chose qui nous dépasse. Oui. Et hier, effectivement, il y avait de l'enthousiasme dans la salle parce que ça nous dépassait. Il y avait quelque chose qui était manifesté, qui nous dépassait. Et c'est un peu le sens aussi de ces manifestations qui sont préparées de manière chorégraphique, etc. Parce que ça nous dépasse et ça nous élève. Hein. Il y en a qui ont été élevés hier. Hein, voilà. Donc, vous voyez, ce mot enthousiasme, c'est toujours ce qu'on appelle la transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Si on est uniquement entre nous, dans nos pensées, nos idées, machin, etc., on ne va pas très loin. Il y a la mort, et puis après, la mort, il n'y a plus rien. Voilà. Alors que la transcendance, ça nous amène à regarder vers quelqu'un qui est au-delà. Et Jésus est au-delà, il a vaincu la mort. Il n'est plus de ce monde, parce qu'il est toujours, il a toujours été le fils de l'homme, mais aussi le fils de Dieu. Et lui, maintenant, est au ciel, et il nous attire à lui. Pour que nous ne restions pas au ciel, nous reviendrons sur la terre, mais que nous soyons une nouvelle créature. Donc, Jésus fait le point avec ses disciples pour leur dire, il y a un problème d'identité. Et là, je rebondis sur le mois famille, où Michel vous a parlé du personnage de David et de Saül. Parce que justement, c'est intéressant cette année de voir en même temps cohabiter ces deux personnages qui réagissent différemment et qui ont un cœur différent par rapport à Dieu. David a un cœur pour Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il a fait des gaffes. Et des gaffes. Et des gaffes graves. Parce qu'il a... Il a même fait un meurtre. Hein, Donc, vous voyez, imaginez un petit peu ce que dit la Bible par rapport à ça. Et non seulement ça, mais à la fin, le dernier message, vous avez compris que David a eu, à cause d'un problème d'identité, on pense qu'il n'est pas de la même mère que ses autres frères. Bon, c'est une supposition, mais qui peut expliquer beaucoup de choses. En tout cas, il a un problème d'identité. Et à cause de ce problème d'identité qui n'a pas été résolu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le ministère de la maison d'Élie, sinon il aurait pu guérir de son problème d'identité. C'est un scoop, hein, c'est un scoop. Mais bon, il n'y a plus d'inscription possible, donc vous êtes tous inscrits. On est quand même 33 personnes, hein, sûr, hein, c'est super. Hein, voilà. Et justement, le ministère de la maison d'Élie, c'est de chercher la racine. Où est le problème d'identité pour le régler, de manière à ce que on puisse être mieux que David. Il y en a qui veulent être mieux que David. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Parce que son problème d'identité qui n'était pas réglé lui a fait faire des bêtises. Lui a poussé. Le problème d'identité pas réglé, ça nous pousse, c'est une racine qui nous pousse, c'est involontaire, c'est inconscient, c'est une pulsion, c'est quelque chose qui nous pousse à faire des choix qui ne sont pas bibliques. Mais on s'en aperçoit après, c'est le problème du péché. C'est qu'on sait, une fois que c'est fait, mais si on est repentant, si on est humble, on se repent, on peut continuer. C'est le problème de l'orgueil qui nous empêche de changer. Donc, demandons toujours au Seigneur un cœur humble pour que toujours, on puisse se repentir. Donc, pour revenir à la question d'identité, qui est quand même extrêmement importante, Jésus pose la question de l'identité. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? Et Moïse a eu cette confrontation quand 40 ans, imaginez 40 ans. Hein, Stéphane nous a quittés en 2000, c'est ça? 2001, donc 17 ans. Mais 40 ans, c'est plus que ça. Pendant 40 ans, Moïse a dû rester dans le désert à garder les moutons, alors que c'était le prince d'Égypte. Vous voyez la formation ? Il y en a qui veulent se former, là ? C'est une formation. C'est vrai que quand je regarde en arrière, je me suis converti en 68, 67, 68, et 50 ans, et je ne suis pas encore formé. Je continue à me former. Parce que la formation, c'est quelque chose de permanent. Il faut se former en permanence. Et Moïse a été formé pendant 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qu'il a appris essentiellement ? L'humilité. C'est du prince d'Égypte. Il était gardien de moutons, du troupeau de son beau-père. Et là, Dieu a décidé d'arrêter ce temps de formation et de l'appeler. Donc il l'appelle. Et c'est là que vous avez le buisson ardent, où Dieu apparaît dans ce buisson. Un miracle, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel, un événement spirituel qui fait irruption dans sa vie. Et Dieu lui dit, tu sauveras mon peuple, tu sortiras mon peuple de l'esclavage. Moïse reçoit une mission impossible. Il a fait, il a essayé. Et il a échoué. Et là, il reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Et il dit, mais qui es-tu, toi qui me parles ? Il a dit, d'abord, enlève tes chaussures, enlève tes sandales. Parce qu'ici, c'est un lieu sacré. Vous voyez, quand on est sur un lieu sacré, sacré, c'est mis à part. Sacré, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et même si dans nos églises, nous n'avons pas de vitraux, nous n'avons pas de choses sacrées, ce qui est le cas de l'église catholique, orthodoxe, des églises historiques, parce que petit à petit, c'est des couches qui se sont superposées de sacralité, et puis c'est devenu la sacralisation. Et petit à petit, c'est les objets qui remplacent la véritable nature de notre relation. Mais c'est pas parce que nous ne mettons pas de vitraux que notre cœur n'est pas enclin aussi à cette recherche de sacralité idolâtre. Donc dans nos cœurs, il faut toujours demander au Seigneur de nous purifier de cette fausse sacralité et de garder le sacré dans le sens où on respecte Dieu et sa parole. Et un vrai chrétien, un chrétien qui a la crainte de Dieu, et c'est ça qui manque aujourd'hui au peuple de Dieu essentiellement, il n'a pas la crainte de Dieu. Et la crainte, c'est pas une peur, c'est une confiance. Mais c'est une confiance en respectant le fait que Dieu est tout autre, qu'il n'est pas humain. Et que n'étant pas humain, il n'est pas affecté par le péché. N'étant pas affecté par le péché, il peut me dire des choses, il peut être une autorité dans ma vie, voyez. Et cette autorité, je la reçois comme étant parole de Dieu. La difficulté, c'est de faire la différence entre l'autorité humaine, pasteur, révérend, tous les noms des leaders qui existent aujourd'hui, en passant par évêque, en passant par etc. Et Dieu, l'autorité de Dieu. Et c'est ça que je voudrais bien vous faire comprendre dans ces messages que j'ai préparés. Parce que même des pasteurs, beaucoup, beaucoup de leaders chrétiens me font l'objection en disant « Oui, mais il n'y a pas de modèle biblique pour l'Église. » Et ça, je l'ai entendu, je continue à l'entendre, et ça m'énerve, parce que je dis « Attends, la Bible, elle existe pour nous instruire. Il n'y a pas de modèle pour l'Église. » C'est quand même étonnant. Pourquoi ils peuvent dire ça? Et ils le disent parce qu'effectivement, quand on regarde l'Église catholique, orthodoxe, alors attention, catholique, il y en a une vingtaine d'églises catholiques, alors que ça se dit universel. Donc vous voyez, déjà là, il y a un schmilblick, parce que l'Église catholique romaine de Rome, effectivement, c'est la plus grande. Je ne sais pas combien de millions, ou peut-être un milliard, je ne sais pas. C'est énorme, c'est vrai. Mais il y a, je ne sais pas combien d'églises catholiques en Moyen-Orient. Des catholiques, différents. Les coptes, les maronites, voilà, il y en a énormément. Et on ne sait pas. Pourquoi ? Parce qu'en France, il n'y avait que l'Église catholique romaine. Donc, on est câblé sur des préjugés, parce qu'on ne s'instruit pas. Et on intègre ces préjugés et on le redit et on les croit. Non, non. Les Églises catholiques, il y en a énormément. Voilà. Les Églises orthodoxes, énormément. Et j'en passe, et les meilleurs. Alors, il n'y a qu'une seule église ou il y a plusieurs églises? Vous voyez, tout ça, ça nous perturbe. Alors, ne parlons pas des églises évangéliques. Il y a énormément d'églises évangéliques aussi. Mais bon, les catholiques n'ont pas besoin de nous désigner du doigt parce qu'eux-mêmes sont divisés, vous voyez. Et on prétend qu'il n'y a qu'une seule église. Et ça, c'est important au niveau de l'identité. Qu'est-ce que c'est que l'église? Quel est le modèle de l'église? Et dans la mesure où cette identité n'est pas claire, elle va nous poser problème, forcément. Tout ce qui n'est pas clair au niveau d'une identité, à un moment donné, ça va surgir d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui amène les divisions, c'est ça qui amène les frottements, c'est ça qui amène les incompréhensions, c'est ça qui amène... Vous voyez, plus l'identité, quelle qu'elle soit, individuelle, des gens qui sont déracinés, qui connaissent pas leur... Souvent, ils ont des problèmes existentiels toute leur vie, parce qu'ils cherchent à savoir qui ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent, quels sont leurs ancêtres, quelles sont les valeurs qui ont été transmises, etc. Enfin, tout un tas de choses. Vous voyez ? Donc, sur le plan individuel, c'est vrai, et sur le plan collectif, c'est vrai aussi. Et là, Jésus voulait leur donner une identité claire, claire, nette, précise. Et il leur pose la question, comme tout juif qui se respecte, il pose des questions à celui qui l'interroge, ou celui avec lequel il discute. Et il dit, qui dit-on que je suis? Ceux qui vous entourent, là, vous avez un avis, vous avez tout un tas de remontées d'informations de la base, là, dites-moi, qui dit-on que je suis? Et bien sûr, les disciples répondent ce qu'ils ont entendu. Il y en a qui disent, c'est Jean-Baptiste, hein, tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes, Isaïe, machin, etc. Oui. Donc vous voyez, dans ce que le peuple qui voyait Jésus, qui voyait ses miracles, qui voyait la puissance de sa parole et tout ça, il comprenait bien qu'il est prophète, ça c'est clair. Et Nicodème, quand il vient voir Jésus, il dit, tout le monde sait que tu es prophète. Voilà. Donc prophète, oui. C'est-à-dire qu'il incarne quelque chose... qui parle de la part de Dieu. Donc ça, cette identité était claire pour tout le monde. Mais ceci étant, c'était pas réellement l'identité de Jésus. Et après, Jésus pose la question, mais vous, les disciples, voilà, c'est bien, vous avez répondu pour le peuple, ce que vous avez entendu, mais vous, qui dites-vous que je suis ? Et là, c'est Simon-Pierre qui a le premier la parole. Mais quelque part, Simon, à ce moment-là, incarne aussi les disciples. Il est un peu le leader des disciples. Et donc, Simon-Pierre se lève, prend la parole, et dit cette phrase qui est fondatrice de l'Église. Simon-Pierre répondit, il dit, tu es le Christ, c'est-à-dire loin, celui qui est loin, celui qui est le Messie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez, cette parole est une parole fondatrice, puisque Jésus va approuver cette réponse. C'est une parole fondatrice de l'Église. C'est une parole fondatrice de notre identité dans cette deuxième naissance, dans cette naissance de l'Esprit, dans cette naissance que nous avons reçue quand nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. La nouvelle naissance, c'est pas de la magie, c'est pas quelque chose de magique qui se passe comme ça à un moment donné. C'est quand nous prenons la décision d'accepter Jésus comme celui qui a porté nos péchés à la croix. Et je pense qu'il faut vraiment prier pour que ces profondeurs de repentance qui ont connu Jonathan Edwards et d'autres qui sont à la base de réveils puissants, là vous les avez ici, vous voyez, j'aime bien l'histoire Donc il y a la frise qui reste là à votre disposition, de nos pères qui nous ont précédés, et puis nous créons l'histoire aujourd'hui. Est-ce que nous allons quelque chose, laisser quelque chose derrière nous? C'est ça la question. Est-ce que historiquement on va parler de nous, vous voyez? Non pas par orgueil, mais parce que nous avons transmis ce que nos pères nous ont transmis, et que le relais qu'ils nous ont donné, on ne l'a pas abandonné, et qu'on a abandonné la course. C'est ça la question. Et que la génération qui suit peut reprendre le relais et peut continuer. C'est ça la vraie question. Eh bien, Jonathan Edwards ou d'autres, quand ils ont connu des réveils, et j'aimerais qu'on puisse revoir ce genre de réveil, c'est que les gens, quant à la prédication de l'Évangile, puissent hurler de douleur qu'ils sont pécheurs, qu'ils se rendent compte de leur péché. Et c'est ce qui s'est passé dans ces réveils. Il y a une prise de conscience profonde qu'on est séparé de Dieu à cause du péché, et que le péché nous sépare de lui. Dieu ne peut pas accepter de vivre dans un monde de péché. Et il a envoyé Jésus qui a porté tous nos péchés. Et c'est pour le péché que Jésus est venu. Et la prise de conscience du péché, non pas parce que la robe est ici, etc., ça c'est pas ça l'idée du péché. L'idée du péché, c'est que vraiment j'offense Dieu par mon attitude. J'offense Dieu par ce que je fais. J'offense ce qu'il a prévu pour moi, je ne le reçois pas. Et ça fait mal au cœur du Père. Notre Père céleste nous aime. Et il a prévu des choses extraordinaires pour chacun de nous. C'est ce qu'on appelle rentrer dans sa destinée. Il y a une destinée pour chacun. Mais pour toutes sortes de raisons, parfois c'est le choix du conjoint, parfois c'est le choix du travail, parfois c'est... Il y a tout un tas de choix. Moi, quand j'ai rencontré Michel, on s'est posé la question. Moi, je viens d'une école où on peut choisir un peu tous les métiers, puisque les arts et métiers ouvrent tous les métiers, on peut aller un peu partout. Mais il fallait choisir. Et il y avait tout plein à mon époque qui allait dans le pétrole parce que ça gagnait beaucoup d'argent. Enfin, il y avait beaucoup de modes à un moment donné où aujourd'hui c'est informatique. Alors là, voilà, ça gagne beaucoup d'argent en très peu de temps, etc. Bon, quelles sont nos valeurs qui nous poussent à faire les choix? Et c'était ça la question. On a parlé pendant des mois et des mois avec Michel. Quelle est notre vision de la famille? Quelle est notre vision pour les enfants? Quelle est notre vision, etc., etc. Et en fonction de ça, on a renoncé à beaucoup de choix qui étaient légitimes à ce moment-là. Voyez, parce qu'on a fait un autre choix de dire Seigneur, oui. Et vous voyez, c'était un travail de mûrissement. Ce n'était pas juste comme ça. Ah oui, le Seigneur a parlé, machin, etc. Voilà, je me laisse guider. Non, non. C'était, bien sûr, basé sur la prière, mais basé aussi sur nos valeurs, sur nos destinées. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans la destinée pour que le Seigneur puisse être honoré dans ma vie? Donc tout ça, c'est une question d'identité. Tout ça, ça pose la question d'identité. Et Jésus voulait vraiment que les disciples puissent non pas être basés sur ce que les gens disent ou ce qu'ils ressentent, mais vraiment sur la révélation. Il nous faut une révélation. Une révélation de notre péché, je viens de le dire, pour que nous puissions nous repentir et abandonner cette manière de vivre indépendante de Dieu. Que nous puissions dire, Seigneur, je veux soumettre ma vie, je veux soumettre mes choix, je veux soumettre tout ce que je fais à ta volonté. Et ça, c'est un changement de cœur. C'est le cœur qui doit être changé. Et donc... Là, Jésus dit à Pierre, tout de suite, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Jésus confirme que Pierre, la réponse de Pierre, qui est aussi la réponse des disciples, qui est basée sur le fait qu'à ce moment-là, Dieu, le Père, a décidé de révéler qui est Jésus par le Saint-Esprit. C'est quoi la révélation? C'est d'un seul coup réaliser quelque chose. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, une révélation. Une révélation, ce n'est pas quelque chose qui se forge à partir de travail, à partir d'instruction, à partir... Tout ça, c'est bien. Il faut travailler, il faut s'instruire, il faut faire un tas de choses. Mais la révélation ne peut pas remplacer les révélations. La révélation, c'est d'un seul coup, on réalise que Dieu est là. On réalise que Dieu me parle. Et je crois qu'il faut cela dans l'Église. Non pas simplement pour la conversion, mais aussi pour toute notre vie. Question d'identité. Qui suis-je? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis attaché à Jésus par les liens de son esprit? Ou est-ce que je suis un chrétien qui essaie de faire de mon mieux pour le servir? Et tout ça, c'est la question de l'identité. Et là, Pierre, et là, Jésus, à partir de là, quand il confirme cette parole, eh bien, il dit à Pierre, cette parole, effectivement, qui aujourd'hui fait encore problème dans le christianisme, c'est l'identité de l'Église. Il dit, et moi, je te dis. Oui. Donc là, il demande à Pierre, Pierre donne une réponse, Jésus confirme que c'est son Père qui lui a donné cette réponse, cette révélation, et dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, je te donnerai les clés, etc. Cet élément fondateur de l'Église pose des problèmes encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours pas réglé. Les réformateurs, au XVIe siècle, ont reposé cette question de l'identité de l'Église, quoi. Et c'est ça qui a fait ce schisme, hein, entre le protestant et les catholiques. Les orthodoxes, avant cela, en l'an 1000, ont fait un peu la même chose. Il y a un problème d'identité aussi de l'Église qui a fait cette scission, ce schisme. Et c'est cette question-là qui est importante, c'est qu'est-ce que l'Église? Quel est le fondement de l'Église? Quel est le mécanisme, le fonctionnement de l'Église? Parce que sinon, on vient à l'Église, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui on est. Parce que, personnellement, on est un enfant de Dieu. Chacun pour soi. Mais Jésus est mort pour son Église. Il n'est pas juste mort pour chaque individu séparé, il est mort pour son Église. Son Église, c'est l'épouse. Là, vous avez tout l'enseignement de l'épouse. Jésus vient pour chercher son épouse. Il n'y a qu'une seule épouse, il n'y a qu'un seul époux. Allô? Donc, il faut savoir quelle est cette épouse. Comment elle fonctionne? Quel est son rôle? Quelle est sa nature? Quelle est son identité? Voilà. Et c'est ça qui me préoccupe et qui fait que les chrétiens, les églises qui ne savent pas, eh bien, ils vivent une église, ils vivent en église, et puis chacun a son idée. Et chacun a son jugement, et chacun a sa manière de voir les choses. Et chacun met des réalités derrière ce qu'il pense, mais ce n'est pas ça. Et c'est un peu l'origine de ce message. Et j'ai vu que la dernière fois, je voulais vous enseigner sur le leadership, et j'ai passé très vite sur les slides précédents, et pensant que c'était compris, parce que j'en avais déjà plusieurs fois parlé. Et là, j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille plus lentement, parce que ce n'était pas du tout le cas. Parce que c'est un problème de communication, parce que je communique trop vite, peut-être, à vous. Et donc, on reviendra un petit peu plus lentement sur ces choses. Donc, je reprends ces slides, juste là, pour commenter un petit peu, mais je ne vais pas aller très loin, puisque l'heure est déjà avancée, pour parler de la trialectique, hein. Alors, j'aimerais bien que vous ne soyez pas comme des chouchottes, là. Ah, le mot trialectique, c'est quoi, ça? Tous les mots. Hein, tous les mots, si on ne les explique pas, vous savez ce que c'est un métastase? Métastase, c'est quoi? Tout le monde le sait, sans vraiment le savoir, tout en le sachant, parce que tout le monde sait que dans le cancer, il y a des métastases. Bon, alors c'est quoi ça? Vous voyez, donc, on utilise des mots dans le langage habituel, et puis quand on est dans l'église, ah, chuchote, c'est quoi, trialectique? Bon, voilà, hein, bon. Trialectique, c'est tout simplement un dialogue à trois. Hein, bon, on peut utiliser d'autres mots, mais notre langue française utilise des racines qui sont fondamentales, qui sont du latin ou du grec. Donc, logos, le lectique, c'est le logos, c'est le dialogue, dialogue à trois. Donc, l'identité de l'Église, il faut savoir qu'elle est fondée sur trois éléments. trois éléments, pas quatre, pas trois, pas deux, pas trois. Et c'est aussi simple que ça, et c'est pas compliqué à comprendre. Prenez par exemple Moulinex. Voilà. Si vous aimez les choses simples, je dirais les choses simples. Moulinex, c'est un groupe. Groupe Moulinex, ou groupe Peugeot, groupe, voilà, groupe. Vous imaginez, à la Défense, il y a une tour qui a trois tours, c'est-à-dire que c'est un complexe, Moulinex, c'est marqué Moulinex dessus, il y a trois tours. Bon, ok. Une grande, une petite, une moyenne, etc. Dans une des tours, il y a le business, hein, les gens qui vendent du Moulinex dans le monde entier, tout ça, vous avez toutes sortes de personnes dedans. Dans une autre tour, vous avez l'administration, malheureusement, il faut de l'administration, il faut des comptables, il faut des gens qui payent les salaires, qui font voilà toutes sortes de travaux administratifs, etc. Ça va, c'est pas trop compliqué. Et imaginons l'autre tour, c'est le SAV, parce que ça casse, hein, faut remplacer, les clients sont pas contents, ils vont chez le voisin si Moulinex répare pas, etc. Pardon ? SAV, service après-vente. Service après-vente, le SAV. Okay. Donc imaginons ça, vous voyez. Ça, c'est de la trialectique dans le sens où c'est un seul groupe, donc un groupe indivisible, mais qui a trois spécificités dans le groupe pour faire fonctionner ce groupe. Okay. Ah ben, ça s'appelle une hypostase. Vous voyez. Donc là, c'est le deuxième mot qui vous fait faire des grimaces. Ben, c'est du français, sauf que vous utilisez le mot hypothèque, voilà, ça vous fait pas hurler, hein. Hypothèque, oui, mais hypothèque aussi, hein. Hypothermie, vous utilisez le mot hypocagne, avant cagne, donc hypo ça veut dire avant, c'est tout. Une fois que vous savez que ça veut dire avant, hein, bien sûr, si on ne veut pas réfléchir, c'est difficile, mais vous dites avant quelque chose, bah, hypo, c'est avant. Et donc, hypostase, le stase, c'est la position, métastase, vous utilisez métastase, bon, c'est-à-dire que c'est des éléments qui sont dans le corps. Par exemple, si votre foie est atteint, les métastases peuvent être ailleurs. Donc, c'est en dehors d'une position qui est liée à l'organe malade. Et donc, voilà, ça s'appelle métastase. Bon, hypostase, c'est simplement ça. Donc, dans le concept de trinité que nos pères ont adopté, qui s'appelle la trinité, il est dit que Dieu est trois personnes, donc trois hypostases, Père, Fils, Esprit. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il soutient la divinité. C'est-à-dire que c'est le soutien, c'est un indivisible, Père, Fils, Saint-Esprit. On peut les distinguer, on peut distinguer le SAV, du business, machin, mais c'est le même groupe. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. Et bien, dans la divinité, c'est pareil, c'est un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. Mais on distingue le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce qu'on les voit apparaître dans leur fonctionnement de manière différente. Ça va ? J'ai un petit peu dégonflé le truc. Voilà, donc j'appelle ça trois piliers. Et toute l'humanité est basée sur ces trois piliers, sur ces trois hypostases, si vous voulez, voilà, qui sont là. Et le modèle de l'Église, le modèle de l'être humain, le modèle de tout être vivant, c'est basé sur le Père, le Fils, l'Esprit, qui est donc l'idée. C'est bizarre que maintenant c'est flou. Avant c'était pas flou. Il a bougé ça. Voilà. Ah ouais. Donc vous voyez, les trois hypostases, ce sont des fondements de la divinité biblique, qui est un seul Dieu. C'est Yahvé. Je suis celui qui suis. Comme Jésus a dit, je suis. Celui qui est, hein, qui est aussi l'éternel tout-puissant. C'est un modèle ternaire, un modèle à trois dimensions universelles, qui est une réalité pour toutes les autres réalités, qui sont des images de cela. Puisque Dieu a créé l'être humain, Dieu a créé l'Église, Dieu a créé les êtres humains et leurs groupes. Voilà, donc c'est simplement la trialectique, c'est simplement le dialogue entre ces trois, parce qu'il y a un énorme dialogue entre le Père et le Fils. Jésus qui parle au Père, le Père, etc. Et il montre cela de manière très très profonde dans les textes bibliques. Et le Saint-Esprit qui lui aussi a son rôle donc, par rapport au Fils et par rapport au Père. Donc cette trialectique est simplement le fonctionnement à trois. Oui, le fonctionnement à trois, comme dans le Moulinex où le SAV est en lien avec l'administration, avec le business, l'administration avec le business et puis le SAV, etc. Il y a un fonctionnement, bon, je suis désolé pour cet exemple qui est très loin de la réalité de l'Église, mais qui montre que ce fonctionnement à trois est le modèle de l'Église. Le modèle de l'Église. Donc on le voit dans l'action et dans l'organisation. Dans l'être, ce que je suis. Si je suis pas, je suis mort. Je peux dire je suis parce que je suis vivant. Vous voyez, tout être qui est vivant, il peut dire je suis. Il y a le je suis, celui qui suis, c'est éternel. Et moi, je suis une personne humaine, mais je suis aussi. Je suis de la nature de Dieu. Eh bien, j'ai trois positions, trois éléments. Je suis tourné vers le Père. Tourné vers l'évangile de la parole, vers Christ qui a laissé sa parole et qui est la vérité. Et je suis tourné vers l'évangile de puissance qui est l'évangile manifestation du Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte sur l'Église. Donc ce premier pôle nous donne le sens vertical, le sens transcendant, le sens qui donne sens à notre vie, qui est l'adoration. Ici, la vertu, c'est l'adoration. C'est pour ça qu'on veut vraiment instaurer avec Moving Glad et d'autres le sens de l'adoration, qui nous est propre, parce qu'on a une conception de l'adoration qui n'est pas forcément celle qu'on voit dans le monde évangélique, forcément. On essaye d'être plus proche de notre vision de l'adoration, en esprit et en vérité. Celui qui influence, c'est le leadership, c'est ça que je voulais développer et que je développerai un peu plus tard, qui est un des pôles essentiels dans l'Église, et celui qui transforme, le pôle qui transforme en citoyen du royaume. Donc les adorateurs, conscients que Dieu est là, conscient qu'on est dans la présence de Dieu, donc la conscience du divin, la transcendance. Nous sommes des influenceurs, des leaders de l'évangile, des leaders de la bonne nouvelle. Et nous devons être des agissants de ceux qui agissent charismatiquement. C'est les gracelets, on en reparlera. C'est les dons de grâce que Dieu nous donne pour faire l'œuvre du royaume, non pas par notre force, mais par les forces que nous donne le Saint-Esprit. Et je résumerai tout simplement, j'ai arrêté là-dessus, sur trois mots qui sont fondateurs de notre langue française, sur ces mots importants. C'est le hieros. Alors, hieros, que ce soit en grec ou en latin, c'est sacré. Ce qui est sacré. Alors, vous avez même hiérarchie qui vient de hieros. Et c'est pour ça, il y a la hiérarchie a quelque chose de sacré. Et nous, en tant qu'Église, nous n'avons qu'une seule hiérarchie, et Marie-France l'a dit majestueusement ce matin, nous n'avons qu'un chef. Oui. Il y a Christ et le peuple. Ce n'est pas du tout comme ça que l'Église catholique comprend les choses. Et il n'y a pas que l'Église catholique. Il y a un chef, un vicaire, représentant du chef, c'est le pape, des cardinaux, des archevêques, des évêques et des curés. Vous voyez, c'est pardon ? Des diacres. Des diacres, oui. Voilà. Et puis vous pourrez en rajouter, parce que c'est plus compliqué que ça, cette hiérarchie. Donc vous voyez, l'être humain a tendance à définir des hiérarchies. Et ça, c'est naturel. Parce que c'est le commandement humain, c'est les ordres qui passent du top down, qui descend. Alors aujourd'hui, les entreprises font de la crassie, donc voilà, on supprime les chefs et tout ça. Mais si la notion de chef, nous, nous est spirituelle, si elle n'est pas, elle ne peut pas marcher. Il faut que Christ soit le chef. Mais que lui, vous voyez ? Donc il n'y a qu'un seul chef, c'est Christ. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une église universelle. Sinon, vous avez des catholiques, des protestants, des réformés, des évangéliques, des pentecôtistes, des charismatiques, etc. Vous voyez, il y a plusieurs chefs, non ? Il n'y a qu'un seul chef, c'est Christ et l'Église. Christ et les adorateurs. Christ et... Vous voyez ? Donc, cette notion de hieros, de sacré, c'est lié au fait que c'est Jésus qui est sacré. Et c'est lui, l'oin, c'est le Messie. Le seul oin... Seul sacré, celui qui est oin, s'appelle Messie, c'est Christ. Christ, ça veut dire sacré. Christ, ça veut dire oin. Christ, ça veut dire le Messie. Oui. Et aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui est dans le ciel, c'est Christ. Donc, il n'y a qu'un seul chef. La seule hiérarchie qui existe, c'est Christ et nous, et pas d'autre. Alors, le deuxième pôle, donc le deuxième pôle ici, c'est le res. R-E-S. Alors, il y a beaucoup de mots qui commencent par res. Res, responsabilité. Résurrection, res, voilà. L'élément, pardon ? Restitution, respiration, voilà. Tous les mots, vous voyez, la langue française, c'est ce qu'on appelle l'étymologie, l'origine des mots. C'est res au départ. Et res, ça veut dire le bien commun. Donc l'Église a un bien commun. C'est quoi ce bien commun ? C'est ce que Jésus nous a donné, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu. C'est c'est les responsables, c'est d'Éphésiens 4:10. Dieu, Jésus est allé en enfer, il est remonté au ciel, il a donné des dons à son église, pasteur, docteur, etc., et les anciens, et tout ça. Donc, il a donné un leadership. Vous voyez, c'est dans le mot res. Et quel est le mot qui vous vient à l'esprit, le mot politique, avec res ? C'est république. Nous devrions être des républicains. Et celui qui a réfléchi à ça dans l'Église, c'est quelqu'un qui a vécu au XVIe siècle, qui n'est pas là-dessus, mais qui pourrait l'être. C'est un des réformateurs. Ah, peut-être il y est. Je vais dire ça à Luc, qui l'a grandement gaffé. Voilà, il est là. C'est Rogers Williams. Rogers Williams. Il a créé la République de Rhode Island. C'est un des plus petits États aux États-Unis. Et Rhode Island a été créé par ce pasteur, qui est réformateur, c'est son des poussières, c'est son, et qui était baptiste, et qui a séparé l'Église de l'État. C'est le seul qui l'a fait. Même Calvin ne l'a pas fait, il n'a pas compris, enfin compris. Je ne jette pas la pierre, hein, à l'époque c'était pas facile, parce qu'il aurait disparu sous les foudres de Rome. Mais en tout cas, c'est que Roger Williams qui a fondé une véritable république chrétienne. À Rhode Island. Alors, ceux qui veulent voir cette histoire peuvent la voir. Et là, c'est le vrai fondement de la compréhension de l'Église. Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, c'est que l'Église est une république. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est donné, c'est un trésor qui est donné, qui nous est donné, qu'on doit veiller. C'est l'intérêt commun. Et Paul, il était pas content. Dans Timothée, il a dit, tout le monde s'occupe de ses intérêts, il n'y en a qu'un, c'est Timothée. Et il a dit, voilà, c'est Timothée qui s'occupe, je vais vous l'envoyer, parce que lui, il s'occupe bien. Tous les autres m'ont quitté, parce qu'ils ont un champ à faire, ils ont des parents, ils ont des machins, etc. Chacun a son... Vous voyez, c'est l'intérêt différent. Là, c'est l'intérêt général. Quel est l'intérêt général que nous avons pour l'Église ? C'est ça la question de ce deuxième pôle. Le troisième pôle, c'est socius. Socius, c'est l'unité du groupe. C'est ce qui donne sociologie, social, sociable, etc. Voilà. Vous voyez, nos préjugés sur le mot société est tout à fait loin de cela. Et pourtant, c'est la base de l'Église. C'est s'aimer les uns les autres. C'est la notion d'être un ensemble, d'être associé. Société, dans le mot association, associé, c'est le mot socius qui est dedans. Et donc, ce sont ces trois pôles qui sont à la base de l'identité de l'Église. Et j'aimerais bien que ce soit clair pour chacun dans les messages qui viennent, pour que cette identité, quand elle est fondée en nous, eh bien, ça va nous épargner tout un tas de fausses conceptions. Ah, le pasteur, ceci, cela, moi, les dons. Vous voyez, tout ce qui est un peu flou dans l'Église peut se concentrer dans une véritable identité de l'Église que Jésus a donnée. Et vous verrez que le verset qu'on a lu là, que Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », est une limpidité sans pareil. Il ne peut pas y avoir de doute. Or, aujourd'hui, il y a toujours des doutes entre l'Église catholique qui se maintient à sa position, etc. Là, avec ce schéma-là, eh bien, il n'y a aucun doute. Hein. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il est basé sur cette dialectique. Et quand on est basé là-dessus, eh bien, on n'a plus de doute, on peut marcher avec une assurance dans son identité. Et j'aimerais bien que ça puisse vous transmettre cela une fois pour toutes, que nous puissions avoir la même vision de l'Église et que nous puissions marcher d'un même pas sur les traces que Jésus nous a données. Seigneur, merci parce que tu as fondé ton Église, tu l'as instituée à Césarée de Philippe. Seigneur, tu as établi, Seigneur, les bases de cette Église afin que les portes du séjour des morts ne puissent pas prévaudre contre elle. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en toi. Et lorsque nous sommes basés sur ce que toi tu as institué, Seigneur, l'ennemi ne peut pas y toucher. Et nous te remercions pour cette assurance que tu nous donnes d'être en toi, d'être, Seigneur, une seule Église, et que rien ni personne ne pourra rien faire pour la détruire, parce que c'est toi qui es notre époux, et nous sommes ton épouse. Merci, dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.